RCF.
Et l'heure de Rome étant également l'heure de notre région, c'est donc à 8h30 que nous retrouverons le journal de Radio Vatican. Auparavant, l'information régionale à 18h30 et le 18-19 en région qui débute tout de suite avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce mardi, RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, RCF Champagne-Ardennes en DAB+, avec nos stagiaires à la rédaction autour de la table. Médina Erich est avec nous, Médina, bonsoir.
Bonsoir.
Également Inès Elgaloussi, bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
On vous retrouvera tout à l'heure pour nous parler de l'actualité, et notamment du concert de la fête de la musique de France 2 qui revient à Reims, mais aussi pour nous présenter la météo. Au programme ce soir, un numéro de Mémoire chrétienne présenté par Jean-François Boulanger. C'est dans quelques secondes. Benoît Saint-Guy, un maire qui nous parle, il est l'édile du Chêne dans les Ardennes. Fabrice nous a parlé du journal régional de 18h30, après quoi on présentera pas mal d'événements. Un rendez-vous demain au Métropolis, le cinéma de Charleville-Mézières. Le film Les Trois Fantastiques, qui a été tourné dans les Ardennes, sera présenté à 19h30 ce mercredi. Ça sera l'occasion aussi ce soir de faire un zoom sur les 50 ans du Lac du Der au Champagne. Le lancement de la saison, c'est tout bientôt, les 25 et 26 mai prochains. On parlera sport et hockey sur glace, plus particulièrement avec le président du hockey club chalonnais qui a obtenu sa montée en division 2. Éric Collin sera avec nous. 18h12, tout de suite, on commence avec la chronique du mardi. Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Et on va aller à Częstochowa, Mémoire catholique de la Pologne, épisode 1, ce qui induit déjà que l'on aura plusieurs épisodes consacrés à cette nouvelle série que l'on ouvre, évidemment. Donc, on l'a dit, vous nous emmenez en Pologne, plus précisément à Częstochowa, lieu de pèlerinage qu'un jeune étudiant nommé Karol Wojtyla fréquenta en 1936 et qui abrite depuis 2013 une statue géante de Jean-Paul II. Ce n'est pas rien.
Ah oui, absolument. Mais par-delà le fait que ce lieu de pèlerinage a largement été associé au souvenir de Jean-Paul II, ce lieu est véritablement le sanctuaire catholique qui a conservé la mémoire de la Pologne, qui a été victime de nombreuses épreuves au fil des siècles et auxquelles Częstochowa est associée.
Avec cette question, Jean-François Boulanger, de quand date le sanctuaire de Częstochowa? Et si jamais on a des auditeurs qui vivent en Pologne ou qui ont des origines polonaises, on s'excuse d'avance pour la prononciation de certains noms de villes, de certains noms de personnages qui ne sont peut-être pas exacts avec la langue polonaise, on va dire.
Oui, absolument. Qui nous excuse d'avance, c'est pas la mauvaise volonté qui manque, c'est simplement la pratique de la langue. Alors, Częstochowa date du XIVe siècle, plus précisément de 1382, ou plus exactement, une chapelle, parce qu'il y a une ville qui existe depuis beaucoup plus longtemps, c'est la deuxième ville de Silésie, mais en 1382, donc, on érige une chapelle avec la collaboration d'un monastère paulinien au sommet de la plus haute colline de la ville, qui est entourée d'un mur, d'un jardin, et on le nomme, ce sanctuaire, là encore, je m'excuse de l'accent, Jasna Góra, en tout cas ça veut dire montagne lumineuse, et donc une icône de Marie, Mère de Dieu, est le point central du sanctuaire, et cette icône a été installée donc 2 ans après l'érection de la chapelle, en 1384.
Qu'a de particulier cette icône que vous mentionnez de Marie, Mère de Dieu?
Alors, il y a 2 versions de l'histoire de cette œuvre. Il y a la version donc empruntée à la tradition, et puis il y a la version historique, qui a été reconstitué par les historiens de l'art. Dans la version dite de la tradition, le tableau aurait été réalisé par l'évangéliste Saint-Luc sur une planche de la table provenant de la maison de la Sainte Famille. Et puis, quelques siècles plus tard, sur les ordres de l'empereur Constantin, le premier empereur romain converti au christianisme, l'icône aurait été transportée de Jérusalem jusqu'à Constantinople. Et enfin, 6 siècles plus tard, un prince russe qui s'appelle Lev reçoit l'icône de l'empereur de l'époque et au XIVe siècle, lors des guerres en Russie, le prince Ladislas d'Opol trouve le tableau dans le château de Belts. Et donc après la défaite des Tatars qui s'opposaient aux Russes, il apporte l'icône donc à Częstochowa et la confie donc à des moines poliniens. Alors ce récit, tel que j'essaie de le résumer, se trouve dans un manuscrit intitulé Translatio Tabulae, qui a été écrit en 1474. Mais d'après les historiens de l'art, Le tableau dont on parle, cette icône de Marie, est une icône byzantine qui date d'entre le 6e et le 9e siècle et qui fut probablement apportée, là les deux versions se rapprochent, à Chestokova par le prince Ladislas d'Opole. Un point est certain en tout cas, c'est que cette icône a pour particularité de présenter des balafres sur la joue de la Vierge, et là commence la renommée particulière de cette icône.
Lorsque vous terminez un propos, à chaque fois, Jean-François Boulanger, vous nous laissez sur un suspense qui induit de nouvelles questions. D'où viennent ces balafres, Jean-François ?
Alors, les balafres, en fait, elles viennent d'une histoire, là encore, que l'on raconte, qui commence le 14 avril 1430, lorsque des voleurs, qui seraient les hussites, c'est-à-dire des adeptes d'une hérésie qui est un peu un ancêtre du protestantisme, s'introduisent dans la chapelle de la Mère de Dieu et enlèvent l'icône de l'autel. Ils la volent ainsi que toutes les offrandes précieuses qui se trouvaient là et ils profanent l'image de la Vierge en la tailladant de leurs épées. Par la suite, donc, l'œuvre est restaurée à Cracovie, donc en Pologne, et les restaurateurs tentent à plusieurs reprises d'ajouter de la couleur à l'icône, mais à chaque fois, les pigments disparaissent. Et donc, à ce moment-là, ils décident de peindre une nouvelle image sur le panneau miraculeux, et donc sur le visage de la Vierge, ils marquent à la plume les traces des balafres infligées par les voleurs en souvenir de cet acte de barbarie. Et donc, après la restauration du tableau, la renommée du sanctuaire va augmenter, et suite à de nouvelles attaques, un mur protecteur est érigé autour du monastère qui va transformer le sanctuaire de Yasna Gora en forteresse de Marie. Et cette forteresse va devenir le symbole de la Pologne, symbole qui résiste, tout au moins pendant longtemps, à toutes les attaques.
Quand le sanctuaire incarne-t-il pour la première fois la résistance victorieuse de la Pologne aux invasions ?
Alors, au XVIIe siècle, lorsqu'en 1655, le pays entier tombe sous la domination suédoise. Et donc, le 18 novembre, une armée suédoise, c'est-à-dire luthérienne, protestante, c'est important pour le sujet, forte de 3000 hommes, arrive à Yasna Gora et exige la reddition immédiate du sanctuaire. Le prieur, Augustin Kordetsky, décide de défendre le sanctuaire avec ses 170 soldats, 20 nobles et 70 moines. Et après 40 jours, les Suédois décident de lever le siège. Donc c'est une victoire qui va revêtir une importance autant religieuse que politique, parce que c'est considéré comme une victoire donc du catholicisme contre la violation des sentiments religieux. Et donc cette victoire est attribuée à la protection de la Sainte Vierge elle-même, gardienne du lieu, et non à la compétence militaire des soldats. Et après cette victoire, le 1er avril 1656, donc quelques temps après, quelques mois après, le roi Jean Casimir de Pologne va consacrer solennellement le pays à la protection de la Mère de Dieu et va la proclamer patronne et reine de tout son royaume. Et dès lors, le destin de la nation polonaise est confié à la très sainte Vierge.
Pourtant, la Pologne va connaître de lourdes épreuves, Jean-François Boulanger. Le pèlerinage pourrait donc en subir les conséquences.
Absolument, parce qu'au cours des siècles suivants, la popularité des pèlerinages à Yasna Gora prend de l'ampleur. Grâce notamment au teint noir du visage de Marie sur cette fameuse icône, on va nommer l'image la Madone Noire et les pèlerinages de Chestokova vont supplanter ceux d'autres sanctuaires locaux. Par contre, au XVIIIe siècle, la Pologne se retrouve affaiblie par ses divisions internes à un moment où ses territoires sont convoités par les grandes puissances voisines, c'est-à-dire la Prusse qui est en plein essor à l'époque, l'Empire d'Autriche et surtout la Russie, qui bénéficie d'ailleurs en Pologne même de la complaisance du roi Stanislas Poniatowski. Et donc se crée à ce moment-là une alliance de nobles, la Confédération de Bar, pour résister à cette emprise russe. Et c'est l'un des chefs de cette confédération, Casimir Pulaski, qui va occuper la forteresse de Yasna Gora et la défendre pendant 3 ans. Mais il est vaincu en 1772, peu avant le premier partage de la Pologne, dont il est un peu le symbole. La Pologne va ensuite céder toutes ses provinces donc à ses 3 ennemis. Elle va subir donc au total 3 partages et finit par disparaître en 1795. Et la conséquence immédiate de ces 3 partages, c'est que le nombre des Polonais qui peuvent entreprendre le pèlerinage à Chestokova diminue parce que le pays est divisé en 3. Par contre, durant cette période, le lien entre l'Église catholique et le patriotisme polonais s'affirme parce que le monastère devient le symbole de l'unité, de l'identité nationale, alors même que la Pologne n'existe plus en tant qu'État.
La Pologne subira d'autres épreuves au XIXe et au XXe siècle, notamment Jean-François Boulanger. Le sanctuaire de Częstochowa pourra-t-il continuer à jouer un rôle pendant cette période ?
Alors je vais un peu anticiper sur ce que je dirai la prochaine fois pour ne pas vous inquiéter davantage. Oui, on peut répondre oui à cette question, mais justement, c'est une période suffisamment importante pour qu'on lui consacre une autre émission.
Eh bien, grand merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé dans ce numéro de Mémoire chrétienne sur Częstochowa. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles explications.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h21 sur les ondes de RCF en région. Un maire qui nous parle avec Jean-Pierre. Avec qui êtes-vous ce mardi ?
Et notre maire aujourd'hui est Benoît Singly, il est maire du Chêne mais aussi président de la communauté de communes de l'Argonne ardennaise. Je ne sais pas si c'est le terme exact, enfin d'abord bonjour Benoît Singly.
Oui, bonjour Jean-Pierre Benoît.
On dit président de la communauté de communes Argonne ?
De l'Argonne ardennaise, oui.
Argonne ardennaise. Alors c'est vrai que comme vous avez les deux responsabilités, on pourra un peu vous interroger sur la communauté de communes. Mais pouvez-vous nous représenter quand même une nouvelle fois la commune du Chêne, qu'on connaît bien dans les Ardennes ?
Effectivement, on connaît bien la commune du Chêne. On connaît un petit peu moins bien la commune de Béron, puisque dorénavant, le village du Chêne a rejoint une nouvelle commune hein, qui associe trois villages, donc Louverny, Les Alleux et Le Chêne, pour former la commune de Béron et ses environs, voilà, depuis 2016. Voilà.
D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas si c'est tout à fait dans l'entretien, mais on parle actuellement de transformation du lac de Béron.
Alors effectivement, le lac de Béron est en train de rajeunir, hein, on va dire, puisque les infrastructures autour du lac ont maintenant plus de 40 ans. Donc il est nécessaire de remettre un petit peu tout ça à niveau, en conformité, accueillir encore mieux les visiteurs, hein, que ce soit des locaux ou que ce soit des touristes venus d'un petit peu plus loin. Donc le conseil départemental mène un programme ambitieux, notamment de reconstruction hein, d'une base pour accueillir des groupes, également de bâtiments pour accueillir toutes les activités qui peuvent se faire sur l'eau. Et puis donc nous, au niveau de la commune, nous avons également œuvré pour améliorer la liaison entre la voie verte qui longe le canal des Ardennes et le lac de Béron, puisqu'on se situe à peu près à 1,5 km. Donc on est vraiment tout proche et c'était important d'avoir une liaison qui soit facilement praticable, aussi bien en vélo qu'à pied. Donc tout cela est aménagé. Et puis l'intercommunalité, elle, de l'Argonne ardennaise, gère la partie dans ce qu'on appelle le vieil étang, hein, donc qui est classé site Natura 2000. Donc là, plus sur une valorisation naturaliste et pédagogique du site de Béron.
Voilà. Alors Benoît Singly, si on revient au Chêne, je peux dire que vous êtes le maire du Chêne, ou on dit le maire de Béron le Chêne, comment dit-on ?
Je cumule. Je suis à la fois le maire délégué du Chêne, et le maire donc de la commune de Béron et ses environs.
Non mais là, je vous reprends, Benoît Singly, je me permets, c'est pas du cumul, c'est la réalité des choses. Vous êtes obligé, on est obligé de faire les deux, voyons, c'est impensable de séparer.
Je vous rejoins.
Alors les habitants du Chêne, comment s'appellent-ils au fait ?
Alors ce sont des Chénois.
Les Chénois. Et combien sont-ils les Chénois aujourd'hui en 2024 ?
Les Chénois, à peu près, hein. 970 habitants sur le Chêne, hein, et puis si on cumule donc sur les trois villages pour rester au niveau de la commune, là on est 1060.
Ça fait quand même plus de 1000 maintenant, hein, plus de 1000 habitants.
Oui.
Alors justement, est-ce que vous avez vu arriver une petite nouvelle population ? Quels sont les Chénois d'aujourd'hui, les Chénoises et les Chénois ? Il y a des anciens bien sûr, il y en a qui sont peut-être dans l'agriculture, il y en a d'autres qui vont travailler à l'extérieur. Quels sont-ils ? Petite photographie.
Alors donc on est donc l'Argonne, hein, secteur fortement rural. Hein, donc on retrouve au Chêne la typologie de bien sûr des retraités, puisque c'est un endroit où il fait bon vieillir. On y reviendra peut-être par rapport aux services qui sont présents. Une agriculture qui est toujours bien présente. Hein, les surfaces agricoles se maintiennent. De moins en moins quand même d'actifs agricoles, puisque les exploitations vont plutôt en s'agrandissant hein, au fur et à mesure du renouvellement des générations. Et puis, on a aussi la chance sur le chêne d'avoir tout de même toujours un renouvellement de population hein, lié au fait que il y a déjà des activités sur le chêne, mais également c'est un endroit où il y a beaucoup de structures, notamment pour les familles, hein, ce qui fait que de jeunes familles souhaitent s'installer au chêne pour pouvoir bénéficier de l'école, des associations, des services de santé de proximité. Et puis comme on a la chance d'être vraiment sur un carrefour de passage, hein, et c'est pas d'aujourd'hui puisque ça date de la voie romaine, on est très facilement, en moins d'une demi-heure, on est à Charleville, en moins d'une demi-heure, on est à Sedan ou à Rethel, et en 15 minutes, on est à Vouziers. Donc ça fait qu'on peut facilement habiter au chêne tout en travaillant dans des pôles un peu plus importants.
Vous aviez évoqué tout à l'heure, Benoît Singlie, les personnes un peu plus âgées, en disant qu'aujourd'hui, il y avait des possibilités, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, quand on vieillit, est-ce qu'on peut avoir des structures de services qui sont adaptées ?
Voilà, alors il y a essentiellement trois éléments, on va dire, hein, qui permettent aux seniors de rester au niveau du village. C'est d'abord d'avoir un habitat qui soit adapté. Hein, donc il y a eu notamment la construction de logements seniors, mais également toute une politique, alors qui est portée cette fois-ci plutôt par la communauté de communes, sur l'aménagement des logements pour faire en sorte que les personnes puissent rester à domicile, hein, avec de l'accessibilité qui soit facilitée. Le deuxième élément, c'est tout ce qui tourne autour de l'accès à la santé. Donc on a la chance d'avoir trois médecins sur le chêne, d'avoir trois kinés également, la pharmacie, le dentiste et tous les services d'aide à domicile en milieu rural, hein, puisqu'on a une association ADMR qui est très très dynamique sur le secteur. Et puis le troisième élément qui fait que les seniors peuvent rester ou viennent s'installer au chêne, parce qu'on en a aussi, c'est la présence des commerces. Hein. On a l'habitude de dire qu'on a tout sur le chêne, hein, dans le sens où on a deux boulangeries, on a une épicerie, on a le fleuriste, voilà, on a on va dire tous les services du quotidien, hein, sont présents dans la commune. Le chêne joue encore vraiment son rôle de bourg-centre, hein, puisqu'on a aux alentours donc une vingtaine de villages moins importants qui n'ont aucun commerce, qui fait qu'on a quand même un flux de population, ou de clients en tout cas, hein, qui permet au commerce et ou aux services de se maintenir.
Ça c'est important, monsieur le maire, ça alors on peut vous applaudir, parce que dans beaucoup de communes, alors c'est pas forcément de la faute des maires d'ailleurs, mais il y a plus grand chose, hein, donc et puis le travail du maire aujourd'hui, c'est ça, je voulais mettre l'accent là-dessus, il est quand même très 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 lourd, hein, vous avez des réunions constantes, et puis en plus vous êtes président de la communauté de communes, c'est-à-dire que là vous avez quand même pas mal de réunions, hein.
Je suis effectivement un petit peu occupé, oui.
Mais d'un autre côté, c'est ce que je me permets de vous dire, quand on est président de communauté de communes, là moi je suis favorable à ce cumul, parce que ça vous aide aussi pour votre propre commune à comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez, quelqu'un qui est dans une commune qui n'a pas l'occasion parce qu'il est fort pris d'aller à des réunions extérieures, ben il sait pas trop ce qui se passe ailleurs. Là vous êtes à un carrefour quand même.
Alors effectivement, ça permet incontestablement d'être plus efficace en tant que maire. Et je pense que c'est important que le président d'une communauté de communes soit également maire, dans le sens où ça lui permet de bien comprendre comment fonctionne une commune et de mieux respecter les communes. Hein, parce qu'on pourrait avoir tendance dans une communauté de communes à vouloir faire à la place des communes. Je pense, moi, que c'est une très, très mauvaise idée. Il vaut mieux faire avec les communes. Hein, il vaut mieux additionner les matières grises, additionner les compétences, plutôt que de vouloir faire à la place d'eux et surtout éloigner les centres de décision. Hein, c'est important que les décisions puissent se prendre au plus proche du terrain en ayant vraiment une bonne connaissance des besoins, de comment tout cela peut s'articuler.
En tout cas, monsieur le maire, et ça, je vais vous importuner encore d'ici la fin du mois de juin, parce que je suis sûr que vous n'avez dit que la moitié de ce que vous souhaitiez dire, en particulier s'il y a des rendez-vous importants dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'il y a un petit rendez-vous quand même très important dans les jours qui viennent? Là, non, pas trop.
Dans les jours qui viennent, pas spécialement. Peut-être bientôt, lorsque les maisons éclusières vont enfin sortir du domaine public fluvial et qu'on va pouvoir acheter les maisons.
Je vous propose d'en reparler dans une émission future, parce qu'il y a eu un reportage très récent sur France 3, le Champagne-Ardenne, qui mettait en valeur un propriétaire qui avait refait une maison d'éclusier, c'était assez exceptionnel, sur ce fameux canal des Ardennes qui est vraiment complètement réhabilité, hein, c'est formidable.
Tout à fait. On avait réussi donc à négocier avec Bonnavigable de France justement pour racheter cette maison et pour la revendre la semaine suivante. L'acte de vente était signé chez le notaire pour que effectivement cette personne puisse en faire sa résidence principale et son atelier de vitrailliste. C'est vraiment une réhabilitation remarquable.
Merci Benoît Singly, maire du Chêne dans les Ardennes, d'avoir été avec Jean-Pierre. Tout de suite, le journal régional à 18h30. Les titres de ce mardi 14 mai, le Club des entrepreneurs champenois organise ce jeudi à Épernay le troisième job dating de la filière Connex au Champagne. Présentation. Après avoir assuré sa montée en Régional 2 pour la saison prochaine, le club sportif Sedan Ardennes se réorganise. L'Ardennais Teddy Pellerin, déjà passé par le club comme préparateur physique et entraîneur adjoint, arrive comme porteur de projet avec le footballeur international sénégalais Kalidou Koulibaly.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Mais avant cela, on part en musique. Le concert de la fête de la musique 2024 de France 2 revient à Reims pour une deuxième année consécutive. Une information révélée en milieu d'après-midi par nos confrères de l'Union, Medina Erich.
En effet, Alexis, on se souvient bien du succès de la fameuse fête de la musique l'an dernier à Reims, et c'est avec une immense joie que nous l'accueillerons de nouveau ce 21 juin. Lors de la dernière édition, près de 20 000 personnes et des millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous pour assister à ce spectacle musical, pour danser et chanter en compagnie d'une quarantaine d'artistes, notamment Gims, Aya Nakamura, Vianney, Santa, Pascal Obispo ou encore Patrick Bruel, accompagné des magnifiques chorégraphies orchestrées par Kamel Wally, ainsi que la présentation dynamique assurée par Garou et Laurie Tillman. Dès la fin de la fête, Arnaud Robinet a chaleureusement invité France 2 à organiser à nouveau l'événement cette année suite à l'enthousiasme des Rémois et au-delà du territoire. Cette soirée inoubliable a eu lieu dans le champ de foire qui présente des avantages en termes d'accessibilité, de superficie et de proximité avec le stade de l'Aune où les artistes ont été accueillis. Une réunion technique entre la ville et les autorités locales est prévue pour demain afin de décider du lieu et des artistes présents.
Merci Medina, on a déjà hâte d'être au 21 juin et de fêter l'été pour vivre ce bel événement. Pour la troisième édition, le Club des entrepreneurs champenois organise un job dating en partenariat avec la Maison de l'emploi et des métiers d'Épernay et sa région. Ce rendez-vous va réunir les entreprises locales de la filière Connex en Champagne, comme nous l'explique son président Christophe Labrouillère.
Toutes les entreprises qui travaillent avec les maisons de champagne, avec les vignerons, avec les coop, travaillent des prestations de services ou des ventes de matériel. Ce job dating est destiné à ces entreprises pour des gens en recherche d'emploi. Les besoins sont très différents et très variés. Hein. Ça va d'administratifs à des commerciaux, à des tourneurs, à des soudeurs, des mécaniciens, à des caristes.
Les entreprises adhérentes au Club des entrepreneurs champenois seront présentes afin de présenter leurs offres d'emploi en CDI, CDD, contrat d'alternance ou d'apprentissage et des offres de stage également. Plus de 30 offres d'emploi seront proposées. Christophe Labrouillère.
Cette année, on a déjà répertorié 70 offres. J'espère qu'il y en aura une centaine. Si on cherche un commercial et qu'il y a un jeune qui cherche une alternance et qui correspond au profil et qu'on a les moyens humains de le former, c'est toujours intéressant en fait de faire un lieu de rendez-vous pour que ceux qui recrutent et ceux qui ont besoin d'être recrutés se rencontrent. Donc c'est bien. En ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la communication, mais des fois, les jeunes qui sont dans la communication peuvent varier sur de l'administratif ou du commercial suivant leur profil. C'est plutôt une journée assez dense.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Le job dating aura lieu ce jeudi, donc de 9h à 17h au Palais des Fêtes d'Épernay. Un pôle acteur de l'emploi et un pôle organisme de formation seront présents pour répondre aux questions et présenter les formations de la filière Connex au Champagne, ainsi qu'un pôle temps partagé. Cette animation est ouverte à tout public. Ça bouge au club sportif Sedan Ardennes quelques jours après avoir officialisé sa montée en Régional 2. Suite à un conseil d'administration, les dirigeants ont officiellement annoncé l'intérêt certain de repreneurs. À l'origine de ce projet de reprise, un ancien de la maison, en la personne de Teddy Pellerin, le natif de Villesmeuse, qui reste plus que jamais attaché au club, préparateur physique et entraîneur adjoint avec les Verts et Rouges, espère relancer le club, mais aussi préparateur physique du Sénégal. Il a convaincu l'international sénégalais Kalidou Koulibaly de mettre des billes dans le projet. Le natif de Saint-Dié-des-Vosges évolue à l'heure actuelle en Arabie Saoudite au sein du club d'Al Hilal FC. Le défenseur central, passé par Naples et Chelsea, a adhéré au projet de Teddy Pellerin, donc, qui a l'ambition de permettre au CSSA de retrouver la N2 en 4 ans. Deux axes prioritaires, la formation et l'équipe Fanion. Pas question pour autant de se couper de la base. Le conseil d'administration a validé à l'unanimité ce rapprochement. Le président de l'association CSSA, Daniel Guérin, au micro de RCF Reims-Ardenne.
Une collaboration, un partenariat qui se crée entre l'association et deux personnes qui viennent en tant qu'accompagnateurs, investisseurs. C'est un travail dans la continuité, dans la progression du club pour repartir dans la lignée de ce qui s'est construit au cours de cette période difficile. Et cette philosophie de gouvernance qui a bien fonctionné va perdurer même si d'autres personnes viennent la compléter.
Le CSSA ne risque rien si ce n'est d'écrire une nouvelle histoire, déclarait pour sa part le maire de Sedan, Didier Herbillon, ravi de voir ce nouveau projet porté par un Ardennais, un projet avec une vraie identité ardennaise, pas question de tout bouleverser, soulignait encore Teddy Pellerin, qui va multiplier les entrevues dans les prochaines semaines afin d'asseoir définitivement le projet et préparer au plus vite la saison prochaine en Régional 2. Concernant l'agenda sportif, les Flammes Carolo ont rendez-vous à l'Arena de Charleville-Mézières à 20h ce soir pour le dernier match de la saison. Déjà assurés de leur maintien, les Ardennaises reçoivent une formation de Saint-Amand-Hainaut, déjà condamnée à la relégation en Ligue Féminine 2. 18h37, la météo de ce mercredi, c'est avec notre stagiaire Inès Elgaloussi. Bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
Quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne pour demain mercredi ?
Alors, cette nuit, ce mardi 14 mai, les villes des Ardennes vont être chamboulées par la pluie. Il fera 14 degrés à Rethel, Charleville-Mézières, Sedan et Vouziers. Dans la Marne, la pluie sera également présente à Reims, Châlons-en-Champagne, Épernay, mais aussi à Vitry-le-François et dans les villes aux alentours. Il fera 14 degrés dans ces villes. Dans l'Aube, les températures seront légèrement plus basses car il fera 13 degrés à Troyes ou encore à Bar-sur-Seine. Toutefois, la pluie sera d'actualité. Dans les villes de la Haute-Marne, il fera aussi 13 degrés à Saint-Dizier et à Chaumont. Demain matin, dans les Ardennes, la pluie va perdurer à Charleville-Mézières, Sedan, où il fera 14 degrés. Dans les villes de la Marne, les nuages seront présents, où il fera 15 degrés à Reims ainsi qu'à Châlons-en-Champagne. Dans l'Aube, le ciel sera nuageux et il fera 14 degrés à Troyes, mais aussi à Bar-sur-Aube. Dans la Haute-Marne, il fera également 14 degrés à Saint-Dizier et à 12 degrés à Chaumont, où la pluie sera au rendez-vous. Et demain après-midi, dans les Ardennes, les nuages seront présents dans tout le département où il fera 17 degrés à Charleville-Mézières ainsi qu'à Sedan. La pluie sera d'actualité l'après-midi à Sedan. Dans la Marne, le ciel sera nuageux et les températures seront estimées à 19 degrés à Reims, Châlons-en-Champagne ainsi qu'à Vitry-François. Dans l'Aube, le ciel sera couvert et les températures seront légèrement plus basses car il fera 18 degrés à Troyes ainsi qu'à Romilly-sur-Seine. Et enfin, dans la Haute-Marne, les nuages seront au rendez-vous à Saint-Dizier, où il fera 17 degrés. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à toutes les Denises. Très belle soirée à vous.
Merci Inès. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Pour célébrer son 50e anniversaire, le Lac du Der en Champagne lance Extra Lac, une saison ambitieuse, riche en festivités, qui débutera les 25 et 26 mai, découverte avec Ilona Pietchok, directrice générale, culture et grand événement à l'agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallée, avec Christopher.
Ilona Pietchok, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici depuis le Lac du Der, un lieu exceptionnel qui va très prochainement fêter ses 50 ans, 50 ans du Lac du Der, avec un nom d'événement qui se nomme Extra Lac. Quelques mots d'abord de façon générale sur cette opération.
Alors Extra Lac, donc c'est un gros événement, plus qu'un événement, une saison culturelle, événementielle, sportive, qu'on a monté donc avec l'Office du Tourisme pour fêter les 50 ans du Lac du Der. Mais c'est un point de départ.
En parallèle, on a les Jeux Olympiques. D'ailleurs, j'en parle parce que dans les différentes thématiques qu'on va retrouver, parmi les temps forts, on va retrouver le domaine du sport. Alors justement, il va y avoir une saison touristique avec plusieurs animations et 7 temps forts pour cette opération Extra Lac.
C'est ça, la saison Extra Lac, en tout, c'est quasiment 200 événements, c'est 200 artistes invités, c'est 180 jours de programmation. Donc vous le voyez, c'est un événement extrêmement conséquent et qui va être rythmé par des temps forts. On a 7 temps forts qui sont thématisés donc durant entre le mois de mai et le mois de septembre. Pour aller toucher à toutes les esthétiques. On a un grand week-end inaugural les 25 et 26 mai. Et ensuite, on a des week-ends autour du spectacle vivant, des week-ends autour du, un week-end autour du cinéma, un week-end autour des arts numériques, un week-end autour de la thématique de l'art et du sport. Et un week-end musical aussi, sur lequel on vient en renfort avec le Festival Musicalité, une programmation estampillée 50 ans Lac du Der. Donc on a ces 7 temps forts, mais... Au-delà de ces 7 temps forts, on a une multitude d'événements qui sont aussi portés par les acteurs ici du territoire. Et je vous le disais, en fait, c'est un événementiel qui va s'étendre de mai jusqu'en septembre, absolument tous les week-ends. Et surtout, des formes, on souhaite proposer des formes qu'on n'a jamais vues auparavant sur le territoire. Je pense par exemple, donc pour le week-end d'inauguration, on va faire une enflammée du port avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Carabos, qui est une compagnie qui est connue internationale pour ses feux gigantesques. Donc on va mettre tout le port et tout le lac en feu. On va proposer des parades géantes dans les airs avec de grandes formes, donc avec la compagnie portée par le vent. Un feu d'artifice qui est aussi thématisé autour de l'histoire du lac. Voilà, je disais à la fois un événementiel très fort qu'on n'a jamais vu, et en fil rouge toujours cette dimension mémorielle qui est importante. On veut raconter l'histoire de ce lac. On va avoir des expositions, on va avoir un film, on va avoir aussi des événements comme une chasse au trésor sur le lac du Der à la recherche des villages engloutis. On a une compagnie de théâtre en résidence qui va travailler sur l'histoire du lac, qui va travailler sur l'histoire des habitants avec un spectacle qui va tourner sur tout le territoire. Ce serait trop long de tout vous décrire, puisque je vous disais on est quasiment 200 événements, mais vous le voyez, un événementiel très fort qui va éblouir tout le monde et puis une dimension mémorielle pour raconter l'histoire de ce lac.
Alors le premier grand temps fort, là on peut le dire, c'est là que ça va démarrer cet événement, c'est le week-end inaugural du 25 et 26 mai, c'est bien ça?
C'est ça, 25 et 26 mai, je vous le disais, enflammé du port, des parades dans les airs, des feux d'artifice, des concerts tout au long de la journée, le samedi, tout au long de la journée, le dimanche. Aussi des scènes consacrées aux enfants, avec une boum pour les enfants, des banquets participatifs, des manèges, il y en a, et des Olympiades aussi, parce qu'on a aussi une saison sportive qu'on met en lien avec les Jeux Olympiques, donc on a les Olympiades du Der aussi, c'est 25 et 26 mai qui fédèrent une multitude d'associations sportives sur le territoire.
Il manque plus que le beau temps.
On l'aura avec un programme pareil. Il n'y a que le soleil qui peut pointer le bout de son nez.
Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, Ilona Piechuk. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette chronique touristique, je rappelle. Directrice générale pour la culture et grands événements à l'agglomération de Saint-Dizier. On vous souhaite une très belle saison touristique, estivale, ici au lac du Der, et notamment à Giffaumont-Chapaubert où nous sommes actuellement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, Ilona Piechuk et Christopher Fausten depuis Giffaumont-Chapaubert.
Le 18-19 sur RCF.
Les Trois Fantastiques à 18h43, un film tourné dans les Ardennes, nous est présenté par Laurent Devis au micro de Jean-Pierre Benoît avant une présentation au grand public au cinéma Métropolis à 19h30 ce mercredi.
Bonjour Laurent Devis.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que nous sommes à la veille, aujourd'hui mardi, d'un film qui va sortir, le premier long métrage de Michael Dichter, Les Trois Fantastiques. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce film et quelle est sa genèse?
Michael Dichter a d'abord tourné un court métrage qui s'appelait Pollux. Il est tombé amoureux du département des Ardennes et il a choisi le département des Ardennes pour faire son premier long métrage qui a été renommé Les Trois Fantastiques, qui a été tourné sur les villes de Revin, Charleville, à Sedan, au lac des Vieilles Forges, au lac de Béron, aux Hautes-Rivières, à Deville, enfin dans tout le département. Et pour ça, il y a donc 2 ans de ça, en juillet 2022, donc en amont, en 2021 même, un casting sauvage a été fait pour recruter donc des acteurs. Et notre fils Jean, qui fait partie aussi de la troupe avant-scène, a eu la chance d'être recruté. Donc 2 acteurs ardennais ont été recrutés sur les 600 ou 800 personnes qui sont passées en casting.
Alors,
pour les rôles.
Je vous interromps, Laurent Devis, car l'information, c'est que ce film sort demain, mercredi, le 15 mai. C'est pour ça que nous en parlons ce matin. Il faut dire aussi que ce film, il se trouve aussi inséré, c'est une histoire fiction, dans l'histoire ardennaise et même dans l'histoire industrielle des Ardennes.
C'est ça. Alors, le contexte du film, c'est celui de la fermeture d'une usine qui s'appelle Pollux. Alors, les Ardennais, ils reconnaîtront un mixte entre Electrolux et Porsche, hein, donc sur la ville de Revin, qui est des usines qui ont fermé. Le réalisateur a trouvé donc dans le département des Ardennes à la fois cette beauté des paysages, cette force de résistance des Ardennais, marquée par un passé de désindustrialisation. Et on retrouve là un peu un analogue de l'histoire des gamins, des trois gamins, Tom, Max et Vivian dans le film, qui vont vivre une expérience difficile dans ce contexte de fermeture d'usine. Le comité d'entreprise de l'usine ne pourra pas payer la colo, alors ils cherchent à tout prix à se faire de l'argent pour pouvoir partir en colonie de vacances. Et c'est une histoire qui va tourner au drame, puisque l'un des trois personnages, Max, qui est interprété par Diego Murgia, donc un acteur belge, a son grand frère Seb qui sort de prison, et ça va être le grain de sable dans la mécanique, et la belle relation d'amitié entre les trois va être mise à mal à cause de ça.
Alors, les trois fantastiques, ce sont donc ces trois adolescents, Max, Vivian et Tom, qui ont 13 ans et qui sont inséparables depuis toujours, et puis qui vont vivre avec Seb. Donc justement, ça va tout bouleverser en quelque sorte. Et ce sont donc deux des trois principaux rôles sont joués par de jeunes acteurs ardennais. Vous avez cité Jean Devy de Charleville-Mézières, votre fils qui joue le rôle de Tom, mais il y a aussi quelqu'un de Rethel.
C'est ça, c'est Benjamin Tellier qui joue le rôle de Vivian, qui dans les trois est un peu le plus grand, qui est un peu le protecteur de la bande. Max, donc Diego Murgia, c'est celui donc qui est dans cette famille dysfonctionnelle, dont la maman est jouée par Emmanuel Berco, et Seb est interprété par Raphaël Quenard, qui est un acteur du moment qui est en train de monter en ce moment. Et donc Tom, c'est la troisième figure donc des trois copains. C'est le plus juvénile, le plus naïf, et c'est celui qui prend en pleine face ce contexte, parce qu'il vit dans le film donc une situation de harcèlement. Il faut dire que le film, qui est un très beau film, qui est très bien joué par les acteurs, est aussi assez dur émotionnellement. On ne le conseillerait pas pour des petits en dessous de 12 ans, en fait. Par contre, il accroche très fort à l'âge des collégiens, des lycéens, et même les adultes aiment beaucoup.
Ce film, Les Trois Fantastiques, qui sort au cinéma demain, mercredi 15 mai, a été primé plusieurs fois à l'occasion de festivals.
C'est vrai. Donc, il a été projeté dans plusieurs avant-premières ou plusieurs festivals. Donc, il a déjà reçu 5 prix. Il a aussi, donc d'abord, été primé à Sarajevo, en Bosnie, à Gifoni, en Italie, à Montréal, au Canada, à Saint-Jean-de-Luz, en France. Il y a eu pas mal de projections d'avant-première. Donc la première fois où Jean a eu l'occasion de le voir, c'était au Festival d'Arras. Et puis récemment, il était projeté au Festival des enfants du cinéma de Charleville-Mézières. Et Michael Dister, le réalisateur, était le parrain de ce festival. Et il a reçu à Charleville le prix du jury adulte. Donc c'est un film qui accroche bien. Alors, il n'est pas facile à classer, c'est pas un film d'aventure, c'est pas un polar, c'est pas un blockbuster. Donc il est a priori, donc c'est un film qui n'a pas une visibilité première immédiatement perceptible. Mais quand on fait la démarche d'aller le voir, très souvent les personnes sont contentes d'avoir vu le film et parfois un peu bouleversées par le contexte.
Alors sur le plan pratique, pour nos auditrices et nos auditeurs de RCF, en ce mardi 14 mai, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la journée de demain? Il va y avoir une présentation un peu officielle du film parce qu'il va être présenté bien évidemment à Charleville-Mézières.
C'est ça, donc il sort en sortie nationale, en fait, dans 200 salles de cinéma en France. Donc un peu partout. Il y a donc une sortie donc sur Paris évidemment. Et nous sur Charleville-Mézières, on a proposé d'organiser un ce qu'on appelle un bord de plateau, ou si vous voulez un échange entre les acteurs et le public. Et donc demain soir, il y aura Jean qui sera présent avec Cyprien qui est un des acteurs de Jivet, qui joue le rôle de Corentin, qui est l'harceleur de Tom dans le film, et Pauline Cher qui est des Hautes-Rivières et qui est Anna, qui est la petite copine de Vivien dans le film. Donc il y aura trois des acteurs qui seront présents et qui pourront répondre aux questions des spectateurs à la fin de la séance qui sera projetée à 19h30.
Tout le monde, bien sûr, est invité. Hein. Donc c'est au Métropolis de Charleville, c'est demain, c'est à 19h30. Okay. Laurent Devy, bien évidemment, votre fils, est-ce qu'un jour on peut penser que avec ce film, il va envisager une carrière cinématographique?
Alors Jean a accroché vraiment très fort à cette expérience. Hein. Donc le tournage a eu lieu pendant un mois et demi, donc en juillet 2022, et il a vécu ça vraiment comme un peu comme une expérience de colonie de vacances. Clément Bertoneau, le coach d'acteur, était là donc pour s'occuper donc des trois jeunes, pour créer donc cette ambiance comme si donc ils étaient trois copains depuis très longtemps. Et d'ailleurs c'est un peu ce qui est advenu parce qu'ils continuent toujours d'être en contact les trois. Et Jean aimerait, oui, poursuivre, faire d'autres castings et peut-être dans ses études continuer par une spécialité théâtre au lycée, par exemple. Et puis peut-être par la suite, ça, voilà, on verra.
Et en ce moment, il se trouve en première, enfin, il se trouve en classe de lycée, enfin, en ce moment.
Pas encore, il est en classe de troisième au,
ah, il est au collège
Saint-Jean-Baptiste.
Donc ouais, il est en train de progresser, il a bien sûr tout le temps devant lui. Alors, on rappelle aussi que ce film qui est proposé demain soir à 19h30 au Métropolis, il va montrer quand même de belles images des Ardennes. Enfin, on vous avait dit des paysages, on voit les Ardennes dans ce film.
Oui, on voit le lac des Vieilles Forges, qui est un peu le commencement du film. Si on va sur Google, on voit la bande-annonce du film. Et ça, c'est très bien montré, c'est-à-dire cette ambiance un peu idyllique au départ, et puis qui commence un petit peu à mal tourner ou qui va tourner au drame du fait de la venue de Seb, qui va porter un déséquilibre.
Merci à tous les deux. Rendez-vous demain, 19h30, au Métropolis de Charleville-Mézières.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Parlons sport désormais avec le Hockey Club Chalonnais qui a validé sa montée en Division 2. Retour sur cette belle saison avec le président Éric Collin et Christopher.
Bonjour Éric Collin.
Bonjour Christopher.
Vous êtes le président des Gaulois de Chalon, club de hockey sur glace à Chalon-Champagne, avec des équipes juniors et une équipe senior qui évolue depuis 2021 dans le championnat de France Division 3. Et c'est à cette occasion que nous vous recevons aujourd'hui, puisque l'équipe Fagnon a validé le 5 mai dernier son ticket pour la Division supérieure grâce à cette troisième place du carré final organisé à Dijon. On peut dire, Éric Collin, que c'est un objectif plus qu'atteint.
Effectivement, c'est un objectif plus qu'atteint puisque en début de saison, on s'était fixé d'atteindre le carré final avec le doux rêve d'atteindre quand même la division 2 dont on faisait partie il y a 4 ans et on a travaillé 3 ans sur ce sujet, renforcer chaque année l'équipe pour qu'elle puisse monter en puissance et la dernière année a suffi pour directement passer en division 2.
Depuis 2021, j'imagine que pour vous en tant que jeune président, on peut le dire encore en 2024 que c'est une grande satisfaction, une immense joie pour vous, à la fois, j'ai envie de dire, supporter des Gaulois, mais en tant que président du Hockey Club Chalonnais.
Effectivement, je suis passé des tribunes à président en 2021. Mon objectif de 2021, c'était fixé avec la mairie de Chalon, pour ne pas la citer, Mme Panavoine, l'adjointe au maire, de passer dans cette division 2. On s'était fixé 3 ans. On réussit le challenge directement du premier coup. Quand vous arrivez au carré final et que l'équipe a fait quand même un magnifique carré final avec d'excellents matchs, vous en ressortez en pleurant, hein, c'est clair.
Une joie pour le staff, pour les joueurs et les supporters, les authentiques. On peut faire un petit clin d'œil aujourd'hui parce que j'imagine que pour eux, c'est la fête.
Alors, les authentiques, que je félicite parce qu'on a quand même eu le plus gros public en déplacement sur les 3 matchs. Et on avait entre 150 et sur la finale 250 spectateurs chalonnais.
Ce qui est beau.
Ce qui était énorme, puisque même la Fédération française de hockey sur glace l'a signalé, m'a dit vraiment chapeau pour les supporters. Donc voilà. Merci les authentiques.
Merci pour les authentiques d'avoir été présents à ce carré final en Bourgogne. Et puis tout au long de la saison, on n'oublie pas, ils sont toujours derrière l'équipe, à la patinoire Cité Glace. On rappelle la patinoire qui peut accueillir jusqu'à 700 spectateurs et les supporters sont toujours là.
Et on arrive même aujourd'hui, c'était la première fois cette saison, on a été obligé de refuser des spectateurs parce qu'on avait rempli la patinoire.
Mais qu'est-ce que ça va être la saison prochaine alors?
Eh ben on en refusera encore plus.
Faut agrandir la patinoire.
Alors, dites pas trop fort, faut que j'en parle à la mairie.
Les Gaulois de Chalon vont donc retrouver la division 2, en tout cas... La montée est validée sportivement, mais qu'en est-il de la partie administrative, Éric Collin ?
Alors la partie administrative, c'est on va recevoir début juin le dossier pour la validation de Division 2, qui a une partie théorique et une partie financière, sur lequel on est assez serein, puisque on a quand même sur les 3 dernières années des bilans positifs. Financièrement, le club se porte bien. Je ne vois pas pourquoi on pourrait être refusé en Division 2.
Et puis, c'est un club qui a connu le haut niveau.
Et c'est un club qui a connu effectivement la Division 2, qui est resté 3 ans en Division 2.
La partie administrative, on croise les doigts. Éric Collin, donc courant juin. On tiendra au courant nos auditeurs de RCF. Les Gaulois de Chalon vont donc retrouver la division 2 4 ans après l'avoir quitté. Un gros challenge, on peut le dire, qui attend le hockey sur glace, notamment l'objectif premier, ce sera le maintien dans ce nouveau championnat. Éric Collin, comment va se passer le mercato chalonnais ?
Alors le mercato, j'ai deux personnes qui travaillent dessus en ce moment et qui travaillaient déjà dessus avant le carré final. L'entraîneur et le coordinateur sportif. L'idée principale cette année, enfin sur la saison prochaine, ça va être de conserver l'ossature de cette équipe qui a fonctionné quand même très très bien. Bon, il y a quelques départs déjà où on sait que les joueurs veulent pas poursuivre. Soit ils ont un autre projet à l'extérieur, soit ils sont en fin de carrière.
Oui.
Je pense surtout à notre capitaine que je salue, Sylvain Berton. Ce sera renforcer cette ossature. On ne va pas profondément changer l'équipe, on veut juste la renforcer.
Éric Collin, président du Hockey Club Chalonnais avec nous aujourd'hui sur RCF. Éric Collin, parlons du club de façon générale. On le disait en introduction, une équipe fanion, mais aussi des équipes juniors. Vous proposez aux plus jeunes des initiations à la pratique du hockey sur glace et même des compétitions.
Tout à fait. Alors, faut savoir qu'on peut pratiquer le hockey sur glace dès l'âge de 4 ans. Pour ces petits-enfants, effectivement, pour goûter au hockey, pour savoir si ce sport les intéresse, on va leur proposer 3 initiations gratuites de découverte de ce sport. Pour pouvoir avoir cette initiation, il vous suffit de vous rendre sur le site du Hockey Club. Vous trouverez et le numéro de téléphone et l'adresse mail pour faire une demande afin qu'on puisse préparer le matériel. Parce que ces jeunes enfants doivent avoir un casque, des coudières et être protégés en cas d'accident sur la patinoire. Hein, il faut savoir quand même que le hockey sur glace, même s'il y a des chutes, c'est quand même l'un des sports les moins dangereux du fait des protections qu'ont les enfants.
Combien de jeunes hockeyeurs vous recevez au sein du club chalonnais ?
Alors au sein du club chalonnais, pour vous dire, on parlait tout à l'heure de mon arrivée en 2021. En 2021, on était 120 licenciés en tout, seniors et enfants. Aujourd'hui, on vient de dépasser les 190 licenciés.
Ah oui ?
Oui. Et donc, on a à peu près 90 enfants dans notre 90-100, à peu près, sans compter les... Ouais, 100 enfants à peu près.
Comment vous expliquez cette augmentation en quelques années ?
L'image de l'équipe première, déjà. Parce
oui.
que dès que vous avez une équipe qui gagne, dès que vous commencez à remplir la patinoire, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, on fait patinoire pleine pratiquement à chaque match. Beaucoup de spectateurs sont intéressés, beaucoup d'enfants sont intéressés. Même la partie senior, hein, avec les loisirs, où ils étaient allés 40, 45. Aujourd'hui, ils sont plus de 60, 65 loisirs à être chez nous.
Vous êtes un passionné, Éric Collin, de hockey sur glace. Mmh. Vous êtes un grand supporter des Gaulois,
oui.
désormais président depuis quelques années. Partagez à nos auditeurs justement l'envie, en tout cas à nos jeunes auditeurs, l'envie de pratiquer le hockey sur glace par rapport à d'autres sports bien plus populaires aujourd'hui comme le football ou encore le basket. Donner un petit avant-goût justement à la fois de découvrir le hockey sur glace et pourquoi pas de venir initier au sein du Hockey Club Chalonnais.
Et ben alors ça va être surtout le sport où on va être sur un sport de vitesse parce que ça va être que des accélérations, donc tous les enfants qui aiment la glisse, tous les enfants qui aiment le contact parce qu'il y a quand même du contact, un peu je vais comparer avec du rugby par exemple, on a quand même et la rapidité et le contact. Et puis bon, c'est un sport où je vais reparler du rugby. C'est quand même les coéquipiers sont très proches les uns des autres. Et ce que j'admire le plus au hockey sur glace, c'est le respect qu'a une équipe envers son adversaire. C'est-à-dire qu'ils vont se battre pendant une heure sur la glace, mais à la fin, ils se serrent tous la main comme au rugby. Et on est tous copains, ils sont même capables de boire un verre ensemble ensuite.
Le fair play, il est là.
Le fair play, il est extraordinaire.
Eh bien, merci Éric Collin d'avoir été avec nous, le président du Hockey Club Chalonnais. Et surtout avec Christopher Fausten, évidemment, longue vie au Hockey Club Chalonnais, mais aussi au Phoenix de Reims, puisque les deux clubs vont se retrouver pour des derbies en Division 2 entre les Phoenix et les Gaulois de Chalon en Champagne. Il nous reste le temps de vous dire au revoir. Demain, c'est Jean-Pierre Benoît qui sera aux manettes de ce magazine régional. Vous retrouverez notamment Robert Reverger et puis d'autres invités qui seront présent. Demain matin et demain soir, vous entendrez Jean-Marc Rose, le président du département de la Marne, qui sera notre invité dès 7h sur RCF France-Ardennes et en DAB+ sur RCF Champagne-Ardennes. Merci Médina d'être restée avec nous ce soir.
Merci.
On te retrouvera aussi certainement demain d'ailleurs pendant ce magazine régional. Merci Inès d'avoir été avec nous également.
Merci Alexis.
Et une très bonne soirée à tous nos auditeurs. C'était Fabrice Gironnet à la mise en onde ce soir. Il a même fait sans les mains pour accrocher cette émission. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais sur les ondes de RCF. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.